Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. La fin du monopole occidental sur la puissance a vu naître un phénomène, celui de l'émergence. Alors quand on parle émergence, on pense BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine, groupe auquel s'est jointe l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas que. En tout cas, alors que rien ne semblait pouvoir arrêter leur ascension, ces pays dits émergents sont frappés depuis plusieurs années par une crise, soit que les pouvoirs soient contestés, les diplomaties en difficulté ou les économies vacillantes. Quelle lecture faire de cette situation? Est-ce la fin du rééquilibrage ou plutôt une inversion ou tout simplement une pause? Questionnement sur les émergences à l'occasion de la sortie du dernier numéro de la revue internationale et stratégique avec nos invités par téléphone depuis Bordeaux. Dalila Chenaf-Nisset, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, bonjour.
Bonjour.
Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
L'évolution stratégique la plus importante de ces 30 dernières années, c'est la fin du monopole occidental. Les pays émergents, qui sont justement ceux par lesquels passe cette remise en cause du monopole occidental sur la puissance, ont connu une ascension dont les chiffres sont assez parlants. Au début des années 90, les BRICS, pour ne parler que d'eux, représentaient 5% du produit intérieur brut mondial, 8,5% en 2001, je parle sous votre contrôle à chacun, et 22,6% en 2015, c'est assez fulgurant. Deux questions pour commencer. Quels ont été finalement les facteurs clés de succès de ces pays? Et est-ce que cette montée en puissance des BRICS est l'explication du déclin des pays les plus développés, Dalila Chenaf-Nisset?
Alors, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que les pays ont utilisé des recettes qui avaient déjà été utilisées auparavant, c'est-à-dire une main-d'œuvre éduquée, bon marché, des spécialisations sur des produits industriels légers. Donc ça, c'est une première manière d'expliquer que ces pays se sont très rapidement insérés dans les échanges mondiaux. Mais concernant plus particulièrement les BRICS, on peut pas exclure l'effet taille. Ce sont effectivement des géants ne serait-ce que par la puissance énergétique et puis également aujourd'hui par la puissance industrielle. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'effectivement, il y a une partie recette ancienne, main-d'œuvre bon marché, mais il y a aussi une partie effet taille qui est inévitable.
Sylvie Matelli.
Oui, sur les BRICS, je suis pas tout à fait sûre qu'on puisse assimiler ça à des pays émergents, même si c'est ce qu'on fait systématiquement. Pour ce qui concerne la Russie, la Chine et l'Inde, on peut très clairement discuter la question de l'émergence d'un point de vue politique, puisque la Chine et l'Inde étaient quand même des grandes puissances au XVIIIe siècle. La Russie, l'une des deux grandes puissances pendant la guerre froide. Donc on n'est pas dans une logique juste d'émergence, même si effectivement il y a une émergence économique. Et puis on est également dans la dimension économique, on est sur des pays qui sont radicalement différents, et donc radicalement différents des pays asiatiques, qui sont l'alpha et l'oméga du pays émergent dans le modèle qui vient de nous être décrit effectivement. On a une conjonction de facteurs, et en particulier de facteurs politiques et économiques, qui à partir du début des années 90 vont permettre à ces BRICS, à la différence probablement des pays émergents, on est dans une logique beaucoup plus économique, d'émerger tant politiquement qu'économiquement. Pour la Russie ou le Brésil, ça va être le pétrole et les matières premières. Pour la Chine, ça va être effectivement l'industrialisation sur des produits, dans un premier temps assez simples et grâce à une main-d'œuvre bon marché. Pour l'Inde, d'autres phénomènes, l'Afrique du Sud, on peut en discuter, et la question du BRICS est tout à fait discutable. Donc, je crois que c'est important de faire de la part des choses. Et on est effectivement dans une dimension puissance et affirmation de leur puissance politique face aux Occidentaux. Donc il est logique qu'il y ait une montée en puissance économique. On a l'impression parfois, et c'est un petit peu ce qui est dit dans la revue, on a un petit peu l'impression qu'ils se sont positionnés comme les nouveaux pays non alignés, l'alignement faisant référence aux pays occidentaux.
Alors, si je vous ai bien compris, l'une et l'autre, l'affirmation politique des BRICS, est-ce que c'est ce qui les distingue des autres pays émergents? Je ne sais pas, peut-être vous, Christophe Ventura, vous souhaitez répondre à cette question? En tout cas, je voudrais juste qu'on approfondisse un peu.
Oui, il est sûr qu'avant la crise de 2008, qui va modifier la trajectoire et enrayer l'expansion des BRICS précisément. On voit avec eux se dessiner peu à peu les contours de quelque chose qui ressemble à ce moment-là à un bloc contre-hégémonique au niveau international, qui a un agenda, qui dessine un agenda. Cet agenda, il a au moins trois points importants. Le premier, c'est de contester au dollar la suprématie en tant que modèle de réserve au niveau international, ce qui est en soi potentiellement entre guillemets révolutionnaire, et ce qui va pas du tout plaire d'ailleurs aux États-Unis, qui ont bien vu le danger, en particulier avec l'appui et la politique chinoise d'ouvrir des lignes de crédit ou d'échanges en monnaie locale avec l'Argentine, avec le Brésil, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les BRICS ont essayé de mettre en place un agenda pour, en fait, consolider et renforcer un axe sud-sud au niveau international, en termes d'échanges commerciaux, financiers, etc., etc. Alors, toute la question est de savoir si cet axe sud-sud était, même du point de vue des BRICS, comment dirais-je, un projet contre... une alternative, un contrepoids à la puissance américaine et européenne secondairement, ou si c'était juste pour disputer à l'intérieur du système mondial la hiérarchie dans les places, en quelque sorte. Moi, je pense que c'était plutôt la deuxième option, en réalité. Troisième axe de l'agenda des BRICS à cette époque-là, c'est aussi ce qu'on a vu en 2014, qui a été le dernier moment où on s'est dit, les BRICS, c'est quand même assez puissant. Eh bien, ça a été la mise en place d'un fonds et d'une banque de développement du Sud, qui ambitionnait là aussi de contester au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale leur rôle au niveau planétaire.
Sylvie Matelli.
Oui, je crois que, comme le disait Christophe Ventura, la date de 2008 est très importante. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se rappeler qu'en 2008, peu avant la crise, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont au bord de la faillite. Il y a un plan social qui a été mis en place. On sent bien qu'on est à la fin d'un système et qu'il faut redéfinir de nouvelles institutions. Et ils sont en partie en faillite parce que les pays émergents et parce que l'émergence économique donne de l'air à ces pays qui ont été souvent endettés. On pense au Brésil, on pense à la Russie. Et puis, qui ont très rapidement, au début des années 2000, remboursé leurs dettes au Fonds monétaire international. Donc, ces institutions n'ont plus de ressources. Et les pays émergents deviennent un petit peu les maîtres du jeu, au sens où ils peuvent, à ce moment-là, parce que ces institutions ont cette situation, et parce que les pays occidentaux sont en crise, ils peuvent demander, et ils demandent, à participer plus largement à l'organisation des relations internationales, et en particulier la gestion de ces grandes organisations internationales. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils entrent G20, mais il demande à ce que des réformes soient engagées au FMI, à la Banque mondiale, pour prendre un peu plus de poids. Alors, les réformes sont toujours en cours, c'est très compliqué, et les aléas récents font qu'effectivement, ça va s'avérer beaucoup plus compliqué et beaucoup moins important que ce qu'on imaginait en 2008, mais on a vraiment un moment clé à cette époque-là.
Alors, 2008, j'aimerais qu'on approfondisse, Dalila Chenafnissé, finalement, donc, on a vu les premiers signes de le ralentissement de la croissance dans les pays émergents, et on a cru qu'il allait s'agir finalement que d'un simple épisode d'ajustement après des périodes de surchauffe. Est-ce qu'on a été définitivement trop optimiste ?
Alors, effectivement, 6 mois après la crise de 2008, on voyait une certaine résistance chez les pays émergents. On a même imaginé un certain découplage entre leur croissance qui était devenue endogène et celle des pays du Nord. Et puis finalement, très rapidement, on s'est rendu compte que non, la crise les touchait également de plein fouet. Et on a encore une fois voulu être optimiste en disant que c'était sans doute une crise d'ajustement. Après les périodes de croissance folle qu'avaient connues les pays comme la Chine. Maintenant, on dépasse cette analyse, on se rend compte sans doute que des pays comme la Chine ou le Brésil, l'Inde est un cas un peu particulier, mais essentiellement la Chine, sont sans doute à la fin d'un modèle. Et que aujourd'hui, ces pays sont à la recherche d'un nouveau modèle de croissance. Alors, pour certains analystes, cette croissance doit être cherchée à l'intérieur du pays, à des pays eux-mêmes. Pour d'autres, naturellement, c'est par un plus large partenariat, notamment avec les pays du Sud. Mais clairement, aujourd'hui, on se rend compte que ce sont quand même des pays qui sont au bout d'un modèle de croissance et qui sont à la recherche d'un nouveau modèle de croissance.
Alors, pays au bout d'un modèle de croissance, dans votre dossier de la revue internationale et stratégique, on sent quand même qu'il y a une certaine, non pas surdramatisation, mais le problème est vraiment là. Je reprends deux idées. est l'une qui est celle de Pierre Salama, qui connaît bien l'Amérique latine, et qui pose la question de la notion de BRICS en se demandant si elle a finalement un sens, quand on sait, comme il souligne, qu'il n'y a finalement que la Chine qui est émergée. Et il parle même, Pierre Salama, d'un début de catastrophe pour l'Amérique latine. Il parle de décennies perdues. Christophe Ventura.
Oui, en fait, il dit que c'est une hypothèse. Peut-être qu'on va arriver dans une nouvelle décennie perdue en Amérique latine. Moi, je pense que effectivement, le scénario est en train de s'écrire, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt, parce que le problème de l'Amérique latine s'insère dans le problème global, parce que au fond, la question du problème de modèle de croissance n'est pas un monopole des économies du Sud. Aujourd'hui, la crise de 2008, pour revenir sur la question précédente, elle expose une situation tout à fait inédite, c'est que c'est la crise du système monde, globalement, qui devient désormais intégrale. Donc toutes les économies ont ce problème par rapport à la question de leur modèle de croissance. On est depuis 2015 un fait très important qui a impacté les BRICS aussi, par exemple. C'est la contraction pour la première fois du commerce international. C'est tout à fait nouveau comme situation. Donc les économies du Sud pâtissent évidemment de tout cela. Mais il faut pas oublier que c'est l'ensemble de la planète qui pâtit de ça. Et donc, de ce point de vue-là, le problème des économies latino-américaines, c'est que leur place, en quelque sorte, dans la division internationale des échanges et de la production, indépendamment du cycle florissant qu'a connu la région, y compris politiquement, dans les années 2000, est toujours la même. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont d'abord des producteurs et des exportateurs, de pourvoyeurs de matières premières à faible valeur ajoutée sur les marchés globaux pour la consommation et la transformation des produits industriels dans les pays riches du centre de l'économie mondiale. Donc, avec tout le problème de la crise systémique, eh bien, c'est ce moteur-là qui s'éteint de manière peut-être pas définitive à cette étape, mais en tout cas très avancée. Donc, oui, de ce point de vue-là, si les latino-américains ne trouvent pas des parades, qu'ils soient pas simplement des politiques conjoncturelles, mais des changements structurels dans leur matrice économique, alors oui, la décennie qui vient pour eux s'annonce très, très problématique.
Alors, finalement, je me tourne vers vous, Sylvie Matelli. Il n'y a pas de recette magique. Christophe Ventura évoque l'importance et le fond de la croissance dans les pays émergents sur l'exportation de matières premières. Quand on voit la Chine qui, elle, s'est industrialisée et qui connaît aussi une crise, alors on retombe sur la notion de globalisation, mais finalement, où se situe, où pourrait se situer le point d'équilibre entre les uns et les autres ?
Alors, c'est vrai que la difficulté qu'ont rencontré les émergents, c'est qu'ils ont fait soit le choix d'une politique de l'offre et donc du développement de leur industrie, donc de l'insertion dans l'échange mondial et de l'exportation, soit le choix du développement de la demande et de la consommation. Je pensais à la Chine pour le premier exemple, je pense au Brésil pour le deuxième, en oubliant peut-être la politique industrielle et en profitant de la rente des matières premières pendant des années pour développer cette consommation. Or, une économie qui fonctionne bien, une économie développée, c'est une économie qui a les deux piliers, qui a à la fois de l'offre et à la fois de la consommation. Et en fait, je crois que en 2008, la Chine, très habilement, a réagi à la crise en constatant qu'elle était l'une des causes de cette crise, avec les gros déséquilibres qu'elle avait créés en finançant le consommateur américain et la consommation américaine. Et donc, elle a décidé, et les BRICS en font partie, mais pas seulement, elle a décidé de se rapprocher des pays du Sud, se rapprocher d'un certain nombre de pays émergents. Elle a décidé de créer un certain nombre de partenariats, ce qui, dans un premier temps, a soutenu la croissance économique dans ces pays-là. Avec une condition pour elle qui était très importante, c'est de s'appuyer sur le développement de sa consommation intérieure pour pallier, finalement, à la baisse de la consommation dans les pays du Nord. Or, c'est là que ça a bloqué. C'est-à-dire, elle n'a pas réussi, malgré les soutiens qui ont été donnés, la consommation intérieure chinoise stagne et ne se développe pas à la vitesse qu'on aurait pu imaginer au vu de son taux de croissance. Donc, ça bloque, ça a bloqué tout le processus et ça a pénalisé l'ensemble des pays émergents. Et puis, il est vrai qu'on voit aujourd'hui quelque chose qui pourrait devenir un renversement de tendance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme le disait à juste titre Christophe Ventura, la croissance du commerce mondial était beaucoup plus forte que la croissance de la production. On s'aperçoit depuis 2-3 ans que ce n'est plus le cas. Quand on regarde aussi les polémiques, les débats chez nous, mais partout dans le monde, sur la question d'ouverture, tous les traités de libre-échange, les accords de libre-échange qui sont systématiquement remis en cause par les populations, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'avenir de la mondialisation. Et il est fort probable que cette mondialisation ne sera pas totalement remise en cause, parce qu'il y a quand même des points positifs, dont l'émergence en particulier, mais il est clair que la démarche global ou vers une globalisation va probablement modifier son chemin dans les années qui viennent et donc changer un certain nombre de choses et un certain nombre d'équilibres.
Alors ce que j'entends, ce sera peut-être le propos sur lequel nous allons poursuivre jusqu'à la fin de cette première partie. Je me tourne vers vous, Dalila Chenaf-Nisset. Il nous faut repenser le positionnement par rapport à la globalisation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela ?
Alors, si on se réfère à la Chine, puisque c'est souvent le pays émergent que l'on cite d'abord, si on se réfère à ce pays-là, lui-même est déjà en train de repenser à son modèle de globalisation. Puisque à la fois, c'est un pays qui a compris qu'il fallait une conquête de son marché intérieur. Effectivement, l'offre ne fait pas tout, il faut aussi de la demande. Donc, c'est un pays qui essaye aujourd'hui d'avoir, comme il le dit, une croissance harmonieuse. À l'intérieur même du pays, même si c'est difficile pour lui puisque les inégalités sont très fortes et aujourd'hui c'est un pays qui rencontre plus un problème de surproduction puisqu'il a du mal à faire démarrer sa demande, mais c'est donc un pays qui a compris qu'il fallait plus aller du côté de la demande, mais en même temps c'est quand même un pays qui repense sa stratégie aussi dans une logique assez globale, et puisque aujourd'hui la Chine essaye de développer essentiellement tout ce qui est logistique de transport et infrastructure en essayant de développer un maximum d'axes sud-sud, mais également des axes qui vont jusqu'à l'Europe au travers d'un grand nombre d'infrastructures. Donc repenser la globalisation, c'est effectivement aujourd'hui ce que fait la Chine en essayant de travailler à la fois sur les aspects extérieurs mais sur les aspects intérieurs. Mais elle le repense également dans une logique de régionalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas forcément parlé de tous les accords régionaux qui sont en train de se nouer entre différents partenaires, avec l'idée que le multilatéralisme est en panne et que sans doute il faut penser plutôt la globalisation, mais au cœur même de grands espaces régionaux.
Alors nous en reparlerons peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Christophe Ventura, repenser la globalisation. Ce que je pense aussi, c'est que pour les Latino-Américains, puisque vous connaissez bien cette région, le grand problème, c'est aussi repenser la relation avec la Chine.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que les deux questions sont imbriquées en réalité, parce que la Chine a tellement joué ce rôle de relais de croissance pour l'ensemble de la planète pendant les années 2000, en particulier pour les Latino-Américains qui ont été ceux qui ont le plus été arrimés à l'économie chinoise entre 2000 et 2013, effectivement, la question, c'est une grande question existentielle. Mmh. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, idéalement, ce qu'il faudrait pour les Latino-Américains par rapport à la Chine, c'est de sortir ou d'éviter de s'enferrer dans une relation de dépendance nouvelle avec la Chine, comme ils ont été dépendants des Européens et des États-Unis, pour la transformer, cette relation, en interdépendance avec la Chine. C'est ça qui est aujourd'hui le sujet, si vous voulez, un peu académique, qui est traité dans à la fois les écoles de diplomatie, les universités, mais y compris au sein de la société civile latino-américaine, c'est comment transformer la dépendance ou le risque de dépendance envers la Chine en interdépendance avec elle, sachant que d'autre côté, les Chinois considèrent que, et d'ailleurs ils l'ont même consigné dans des documents très officiels en Chine, considèrent l'Amérique latine comme un partenaire d'égal à égal. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont au même niveau, grosso modo, de leur développement et de leur parcours justement dans la mondialisation, et que la relation qu'ils doivent avoir avec les latino-américains doit être une relation, comme on dit en Chine, mutuellement bénéfique. Si vous voulez, l'Amérique latine d'ailleurs a un statut différent, par exemple, de l'Afrique pour les Chinois de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, le dialogue il est permanent entre les deux entités. Mais la relation reste profondément asymétrique à l'heure à laquelle on se parle. Parce que les Chinois avec les Latino-Américains ont finalement le même statut que les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, les Latinos leur vendent des matières premières et les Chinois leur vendent des produits manufacturés à valeur ajoutée. De ce point de vue-là, les Chinois sont un pays du Nord, si vous voulez, par rapport aux Latino-Américains. Derrière la question, pour les Latino-Américains, pour conclure, il y a interdépendance chinoise va ou devrait aller avec la constitution, disons, d'une ère géoéconomique proprement latino-américaine, c'est-à-dire d'un marché commun latino-américain qui devrait leur permettre de compenser les chocs globaux pour pouvoir les absorber justement et se déconnecter un petit peu de ce point de vue-là de leur stricte dépendance aux marchés mondiaux. Et je pense que la question qui est posée aux latino-américains de ce point de vue-là, elle se pose à tous, parce que la question que vous posez sur comment repense la globalisation, en fait c'est ça, c'est quelle relation entre les sociétés et les États avec les marchés globaux qui sont à la fois les marchés qui déterminent la mondialisation mais qui aussi en font la crise. C'est cette réflexion-là aujourd'hui, elle passe un moment donné par ces réflexions sur la multipolarité, sur l'idée d'avoir des pôles régionaux larges qui soient en fait des moteurs économiques et politiques, plutôt que d'avoir des pays qui soient, disons, insérés dans des chaînes internationales dans lesquelles ils ne maîtrisent rien.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Dalila Chennaf-Nisset, Sylvie Matelli et Christophe Ventura dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur les pays émergents à l'occasion de la sortie du dernier numéro de la revue internationale Les Stratégiques. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Bordeaux, Dalila Chennaf-Nisset, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Dalila Chennaf-Nisset qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS. J'en reviens à la première question qui a été posée au début de la première partie, finalement sur laquelle on n'a pas pris le temps de répondre. Cette question tournait autour de la relation entre la montée en puissance des BRICS ou des pays émergents plus généralement. Est-ce qu'elle est l'explication du déclin des pays les plus développés ? Et inversement, est-ce que le ralentissement des pays émergents peut avoir des conséquences positives pour les pays occidentaux, Sylvie Matelli?
Alors, plusieurs choses pour répondre à la question. Très clairement, la montée en puissance des pays émergents et des BRICS en particulier a entraîné une perte d'influence, on va dire, des pays occidentaux. Je pense que, quels que soient les problèmes que rencontrent les BRICS à l'avenir, les évolutions en cours sont structurelles, sont un fait, et les pays occidentaux ne retrouveront jamais le poids qu'il pouvait avoir avant cette émergence. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point sur la question du déclin qu'on entend souvent. La crise de 2008 a été en grande partie liée aux divers déséquilibres qui structuraient notre économie mondiale et la mondialisation, dont en particulier les déséquilibres assez choquants d'ailleurs, de pays du Sud qui ont besoin de tout et surtout de se développer, mais qui finançaient, au lieu de financer leur propre développement et la réduction des inégalités dans leur propre pays, financer les pays du Nord et le consommateur des pays du Nord, avec toutes les conséquences environnementales que l'on connaît, bien évidemment. Donc je crois que la montée en puissance d'un certain nombre de pays du Sud est plutôt une bonne nouvelle, même si ça entraîne des pertes de parts de marché des pays du Nord. Et quelque part, le jour où les pays du Nord représenteront une part dans le PIB mondial qui est plus en cohérence avec la population ou la superficie de leur territoire, etc., ce sera une bonne nouvelle parce que ça voudra dire que les marchés du Sud ont réussi à se développer, que le consommateur du Sud a un certain niveau de vie et ça créera un certain nombre d'opportunités, y compris pour les pays du Nord, peut-être en termes de développement de nouvelles industries, etc., etc., etc. Donc c'est dangereux que de parler de déclin et de l'instrumentaliser comme certains, en particulier certains politiques, peuvent le faire, parce que est-ce que véritablement on veut continuer à vivre dans un monde où d'un côté il y a des très 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 riches, de l'autre côté des très 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 pauvres, des dettes qui ne cessent de croître et finalement des consommateurs qui ne sont pas forcément satisfaits, du chômage qui s'accroît dans certains pays, etc., etc., etc.
En tout cas, et je me tourne vers vous Dalila Chennaf-Nisset, la croissance des pays émergents n'a pas engendré, alors il y a des populations et des millions de gens qui sont sortis de la pauvreté, c'est clair, ceci étant les différentiels de niveau de vie restent avec des disparités qui sont abyssales dans certains cas.
Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que un grand nombre de pays émergents ont effectivement réussi à atteindre des niveaux de croissance absolument fabuleux pendant plusieurs périodes de temps, que cette croissance a effectivement alimenté, surtout pour les pays asiatiques, un tissu industriel beaucoup plus dense et a été alimenté par un tissu industriel beaucoup plus dense. Mais ce qu'on note dans le même temps, c'est que cette croissance n'a pas toujours été mise au service du développement. Et donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays émergents, on constate un maintien très fort des inégalités, qui reste un problème assez important dans le cas de la Chine. Donc de fortes inégalités et puis aussi de la pauvreté. Même si aujourd'hui il y a une vraie classe moyenne dans beaucoup de pays émergents, on reste sur des ratios qui sont très importants en termes de problèmes de scolarisation, de problèmes de santé, de problèmes de pauvreté. Donc on se rend compte aujourd'hui que c'est encore plus difficile en période justement d'ajustement ou de crise pour les pays émergents, et on se rend compte que finalement la fragilité de ces pays apparaît au grand jour.
Alors, fragilité de ces pays, est-ce qu'il y a malgré tout des pays émergents qui réussissent mieux que d'autres, Dalila Chanafnissé?
Alors, bah, moi, comme ça, je pense au Chili, dont on parle assez peu, mais qui est un pays qui a d'Amérique latine, hein, qui rencontre moins de difficultés que d'autres pays. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser aux problèmes du Brésil ou aux problèmes de la Chine. Moi, je reste peut-être plus confiante sur des croissances qui me semblent plus équilibrées du côté de l'Inde, par exemple, même s'il y a certains problèmes. C'est un pays qui, traditionnellement, a su bâtir sa croissance aussi sur son marché intérieur. Mais effectivement, je pense à un pays comme le Chili.
Sylvie Matelli.
Oui, alors bah, y a des pays qui ont déjà émergé. On pense à la Corée du Sud, on passe à Singapour. Et si on regarde un petit peu les caractéristiques de ces pays, alors d'abord, il n'y a pas de recette miracle. Je crois que l'émergence doit s'adapter à chaque situation, à chaque pays. Et que souvent, ce sont plutôt des passagers clandestins, c'est-à-dire des pays qui arrivent à se mettre sur une stratégie économique un petit peu originale et qui fait que justement, cette originalité va soutenir leur émergence et leur développement économique. Et puis le deuxième aspect, le point commun par contre à tous ces pays qui arrivent à émerger, c'est la question politique. Quelle qu'elle soit, hein, mais une stabilité politique, une gouvernance qui soutient, qui accompagne le développement économique et l'émergence. Et là, rien d'étonnant, on sait que les investisseurs ont souvent très peur du risque politique et de l'instabilité politique. Donc un pays même ferme sur le plan politique est souvent plus rassurant qu'un pays qui ne l'est pas.
On pense à la Turquie, et je me tourne vers vous, Christophe Ventura. Évidemment, la question politique, en ce qui concerne le Brésil, parce qu'il y a eu une dégringolade, c'est les problèmes politiques qui ont généré les problèmes économiques, ou l'inverse, ou tout est venu en même temps
Non, moi je suis fermement convaincu que la source, l'origine du problème brésilien, et encore une fois, par extension, est le même pour tous les pays latino-américains, c'est le problème économique, précisément. C'est parce qu'il y a eu une crise économique, en tout cas. L'impact de la crise de 2008 est arrivé en Amérique latine à partir de 2011-2012 et de manière beaucoup plus forte à partir de 2013. L'impact, c'est quoi? Bah, c'est la chute de la demande mondiale de matières premières, de ressources naturelles, et avec elle, la chute des cours de ces matières premières également, qui s'est traduit directement, qui s'est impacté très frontalement par un reflux brutal des économies latino-américaines et celle du Brésil en premier lieu, puisque le Brésil, en 10 ans, pour citer qu'un chiffre, entre 2007 et 2012-2013, vu la part de ses produits primaires, c'est-à-dire de ses ressources naturelles, matières agricoles et matières premières, dans le total de ses exportations, augmenter de moins de 50%, de 47% à peu près, à plus de 65%. Ça veut dire que en 10 ans, ce qui a été le moteur de l'économie brésilienne, c'est ses exportations de matières premières et de ressources naturelles, en particulier vers la Chine, qui est devenue, dans le même temps, son premier partenaire commercial. Bon, c'est une belle métaphore de tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. Donc, quand tout ça s'est arrêté, en particulier avec la chute de la demande chinoise, etc., ça a été direct pour le Brésil et ça n'a pas été anticipé par aucun des pays de la région. Et donc tout a commencé avec ça, crise économique qui est devenue crise sociale qui est devenue crise politique. C'est ça la séquence. Moi j'aimerais rebondir juste sur une chose qu'a dit Sylvie, parce que ça paraît très important, c'est le fait que, encore une fois, la définition qu'on emploie pour émergent, parce que la question des BRICS, c'était qu'il y avait une originalité, c'est-à-dire qu'au départ on est dans une définition qui est strictement financière et économique. L'originalité des BRICS vient parce qu'à un moment donné elle a des ambitions géopolitiques, et de ce point de vue là ça dépasse la définition de la personne qui avait inventé la notion, qui était Jim O'Neill, rappelons-nous, qui était le chef, le gérant de la branche gestion d'actifs de Goldman Sachs. C'est comme ça qu'en 2001, on appelle les BRICS, on les nomme. Mais après, ils ont eu cette ambition géopolitique. Toute la question aujourd'hui, c'est que sont devenues ces ambitions géopolitiques?
Alors, oui, Sylvie Matelli.
Je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Christophe sur le sujet de l'Amérique latine et de la question économique. En reprenant une remarque que fait Pierre Salama dans son article, l'augmentation des prix des matières premières a véritablement apporté des ressources inattendues, puisque c'est allé très très vite aux pays d'Amérique latine, qui n'ont pas géré, qui n'ont pas maîtrisé le syndrome hollandais, ce fameux effet qui fait que lorsque vous avez des succès à l'export par les matières premières, vous avez une valorisation de votre monnaie qui réduit la compétitivité de vos produits industriels. Et c'est vrai qu'on a constaté, on a observé, mais il y avait déjà des articles il y a 5-6 ans sur ces questions dans le cas de l'Amérique latine, une désindustrialisation précoce de ce continent, d'un certain nombre de pays, alors même que l'industrialisation aurait pu prendre le relais de la baisse des prix des matières premières. Donc ils ont profité de la rente, ils se sont positionnés comme des pays rentiers et ont subi directement ce qu'on appelle la malédiction des matières premières lorsque les prix ont chuté.
Et le Venezuela en sait quelque chose. J'aimerais que, avant de parler des ambitions géopolitiques des pays émergents et des BRICS en particulier, revenir sur ce que nous disions précédemment. On a parlé du ralentissement des pays émergents, du ralentissement du commerce mondial, avec cette nécessité de repenser la globalisation. Quelques mots sur les grands accords régionaux, l'accord transpacifique, l'accord transatlantique. Qu'est-ce qu'ils apportent ou qu'est-ce qu'ils pourraient apporter ces accords dans cette nécessité de repenser la globalisation, d'Ali Lachenaf Nissay?
Traditionnellement, ces accords sont pensés et imaginés pour que les pays partenaires puissent construire entre eux des relations commerciales qui vont permettre finalement ces relations commerciales de résister aux chocs qui viennent justement de l'extérieur de ces zones commerciales. Donc ici, l'idée dans ces accords commerciaux, c'est justement de s'isoler, d'être dans la globalisation paradoxalement, mais de tenter de s'isoler de chocs qui viennent de l'extérieur tout en construisant un partenariat. Ce partenariat commercial permet d'asseoir aussi une puissance politique aux différents pays partenaires. Donc je pense que qu'on cherche dans ces grands accords, c'est effectivement de créer de grands espaces où vont s'échanger les marchandises et les biens, pour pouvoir dynamiser des processus de croissance, des processus d'offres, d'industrialisation, tout en essayant de résister à différents chocs asymétriques.
C'est finalement, Sylvie Matelli, recréer une sorte de frontière différente des frontières étatiques.
Oui, tout à fait. Alors, je trouve très intéressant ce que dit Madame Chenaf Nissay quand elle parle de traditionnellement. Effectivement, les accords régionaux, c'est pas nouveau. Ouais. Je crois que l'ASEAN, c'est dans les années 60, fin des années 60. Et au départ, ces accords régionaux viennent en grande partie formaliser une sorte de paradoxe de la globalisation, c'est-à-dire que la globalisation, elle est d'abord régionale, avec la montée en puissance de pôles régionaux, de pôles économiques, soit parce qu'il y a une certaine complémentarité des marchés et donc des entreprises qui s'organisent au niveau régional, soit une complémentarité des spécialités et donc une organisation de la chaîne de valeur. Dans le cas asiatique, par exemple, vous aviez la Chine qui était l'usine du monde et puis le Japon qui produisait des composants de très haute technicité, la Corée du Sud qui était intermédiaire. Donc ça, c'était traditionnellement. Aujourd'hui, la négociation de tous ces accords un peu à tort et à travers sur tout et n'importe quoi, et des accords parfois extrêmement larges, le traité transpacifique par exemple, et autres, on a l'impression qu'on a une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire les États se rendent compte que la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est presque universel, ou à l'OMC, c'est terminé, l'OMC, ça fonctionne plus. Donc on essaye de négocier pour se protéger, pour se rassurer, tu restes bien mon partenaire et ça va pas changer avec l'échec ou les difficultés que rencontrent les négociations à l'OMC. Donc là, c'est un petit peu illisible quelque part. Effectivement, il y a une volonté de consolider un certain nombre d'acquis libéraux. Encore une fois, on voit le positionnement des opinions publiques par rapport à ça, qui rend très discutable tous ces accords et finalement très difficile à négocier tous ces accords. Je suis pas sûr que ce soit la solution.
Christophe Ventura.
Oui, je pense, au risque d'être peut-être un petit peu provocateur, que ces nouveaux accords qu'on qualifie en général de méga-régionaux, en fait, c'est le terme qu'on peut employer, sont en fait les nouvelles frontières du protectionnisme moderne, en réalité. Parce que d'abord, c'est précisément un protectionnisme qui dépasse les frontières géographiques des États, mais qui sont les nouvelles frontières de l'économie mondiale, qui sont celles des chaînes de valeur productives. En fait, on se rend compte que sur le plan économique, ces accords suivent les frontières dessinées par ces chaînes de valeur et qui traversent une multitude de pays dans des dimensions régionales et méga-régionales. Ça, c'est la première chose. Et ces accords sont un peu protectionnistes aussi dans le sens où c'est un club de pays ou d'États qui se consolide entre soi, à la fois sur le plan tarifaire, mais par exemple, si vous prenez le grand marché transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, la question n'est pas tellement tarifaire, et surtout précisément sur les normes non tarifaires. Donc on a une espèce d'unification comme ça, méga-régionale, qui permet de se protéger des autres qui sont en train de faire pareil. Ça, c'est le premier point. Donc c'est une nouvelle forme de protectionnisme à l'échelle régionale. Deuxième point, si on se met du côté de la géopolitique cette fois-ci, il est très clair que à la fois le partenariat transpacifique qui a été évoqué ou le traité transatlantique qui nous concerne sont aussi sur le plan géopolitique des réponses ou des reconfigurations géostratégiques, en particulier des États-Unis, pour faire face et répondre à l'émergence de la Chine, de la Russie en particulier, et après des pays émergents, dans le sens d'entraver leur expansion commerciale, financière et géopolitique. politique. Donc ces accords-là ont aussi cette fonction très clairement, et c'est tout le débat qu'il y a, par exemple, de l'autre côté avec le partenariat transpacifique sur la question de la tentative de contenir l'expansion chinoise en Asie-Pacifique, tout ça nous renvoyant à la stratégie de Obama en particulier sur le pivot asiatique. Mais là, on est encore dans un autre sujet.
Dalila Chanafnissa, vous souhaitez réagir ou prolonger la réflexion sur ces grands traités et peut-être poursuivre sur la notion géopolitique? Alors effectivement, c'est une façon de neutraliser, hein, d'une certaine manière, ce que vient de dire Christophe Ventura, c'est-à-dire que finalement, les pays émergents n'auront ou n'ont pas ou non plus la possibilité de s'organiser et d'avoir des ambitions proprement parlées géopolitiques pour eux-mêmes.
Effectivement, je peux que confirmer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que derrière toutes ces ambitions commerciales, puisque les traités sont toujours affichés comme étant dans une logique de libre-échange ou de reconfiguration des échanges, derrière cette logique commerciale, on lit naturellement des ambitions qui sont beaucoup plus larges et qui sont essentiellement des ambitions politiques. Et on voit bien que ces grands espaces qui se dessinent sont des espaces d'influence. Alors, plus l'espace va être englobant, plus l'espace va être large, et plus il peut y avoir une dilution naturellement de la puissance de certains pays par rapport à d'autres pays. Alors, il est vrai qu'on lit, hein, derrière certains traités une ambition des États-Unis de reprendre possession du leadership dans certaines régions, et on pense notamment à la région asiatique.
Sylvie Matelli. Effectivement, au cœur de ces méga accords, on a deux choses. Déjà, la volonté de trouver un compromis ou un accord face aux échecs de l'OMC, aux difficultés de l'OMC. Et puis, des grands pays qui se positionnent, les États-Unis en tête. C'est dans ce sens que c'est assez illisible. Comment expliquer ou comment imaginer les États-Unis, si tous les traités sur lesquels ils se sont investis venaient à fonctionner, comment les États-Unis vont-ils gérer leur libre-échange avec l'Europe d'un côté, les pays transpacifiques de l'autre? C'est assez compliqué, c'est un petit peu contradictoire avec tout ce qui a été fait, les engagements qui avaient été pris jusque-là ces dernières années. Alors, peut-être un mot pour terminer. Il y a un continent dont on n'a pas parlé. Philippe Hugon était invité mais n'était pas disponible aujourd'hui. Finalement, l'Afrique reste très extérieure. On évoquait les grands traités régionaux, transpacifiques, transatlantiques. D'Afrique, il n'est guère question. Dans tout cela, je ne sais pas qui veut répondre.
J'aurais tenté de dire comme toujours. La construction économique se fait avec les pays qui émergent ou qui ont émergé. Et l'Afrique reste toujours le parent pauvre de tout ça.
Christophe Ventura.
Et en même temps, c'est la région aujourd'hui qui cristallise tous les conflits les plus violents de cette crise de la mondialisation. C'est une région de nouveau en guerre, hein, on peut le dire, de multiples fronts, où sont impliqués un certain nombre de puissances du jeu international. Pour l'instant, ça fait de cette région surtout, disons, potentiellement une marmite dont on ne sait pas bien comment elle va évoluer. Et en même temps, elle dispose elle aussi de ressources absolument incommensurables que tout le monde se dispute. Dans ce contexte-là, il y a quand même des choses qui vont être récurrentes, y compris au-delà de la crise que traversent les pays du Sud et des BRICS. Par exemple, moi je pense que malgré tout, le Brésil va continuer à jouer un rôle de croissant dans les pouvoirs internationaux. C'est de toute façon un pays qui, dans les années qui viennent, et indépendamment des crises actuelles, sera dans le club des 10-12 pays qui feront les relations internationales de demain, parce que ces pays ont atteint dans la séquence désormais des seuils, des niveaux géopolitiques, économiques, culturels, etc., qui font que de toute façon, leur rôle sera croissant. Et c'est certainement aussi quelques pays africains qui pourront prétendre à ça dans les années à venir. Si c'est pas l'Afrique du Sud qui a toujours été le maillon faible économique des BRICS, ça pourrait être le Nigeria, par exemple, dont on parle beaucoup.
Et l'émergence n'est pas seulement économique, c'est ce qu'il faut entendre aussi. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Dalila Chanafnissa, qui était avec nous par téléphone depuis Bordeaux, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Merci aussi Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, et Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, pour cette édition en partenariat avec l'IRIS pour la sortie du dernier numéro de la revue internationale et stratégique, justement consacrée aux émergences. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique reviendra sur le bilan politique étrangère de Barack Obama. Nous mettrons l'accent sur la relation relations entre Cuba et les États-Unis. À très bientôt.